Cultivons notre jardin.
Et alors, Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors, pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour, bienvenue à Cultivons notre jardin, émission 100% locale présentée par Nat et Jackie. Salut Jackie!
Bonjour, bien content de revenir sur les ondes après une longue absence.
Oui, nous voici de retour, en pleine forme.
En pleine forme, ça doit fonctionner.
Tout a fonctionné, on a plein de trucs à vous raconter pour le jardin. C'est la 30e émission, Jackie, tu te rends compte ?
Eh bien oui, ça avance.
Ça commence à faire, ça ne nous rajeunit pas tout ça.
Mais bon, on va essayer de quand même faire une émission qui reprenne pas mal de choses, un petit peu de parler de... Et bien justement de cette interruption par exemple, et puis on va essayer de reprendre notre émission un petit peu comme c'était, hein, c'est-à-dire avec le même plan un petit peu, cette émission qui est diffusée le jeudi à 12h30 et le dimanche matin à 9h.
Voilà, exactement. Donc les horaires effectivement de diffusion ne changent pas et nous allons vous parler comme d'hab du jardin au naturel, mais pas que.
Voilà, tout est dans le « mais pas que ». On va en avoir la preuve aujourd'hui encore.
Allez, c'est parti.
Alors, on va commencer cette émission de rentrée avec la chronique de Nat. Donc, tu nous parles de quoi ?
Je voulais vous parler des cépages interdits. On en a déjà parlé parce qu'une fois, tu m'avais amené à goûter, Jackie, je ne sais pas si tu te rappelles, du raisin qui s'appelait Isabelle, que j'avais trouvé délicieux parce qu'il avait un goût de fraise des bois. Et donc, ce raisin fait partie, effectivement, des cépages qu'on appelle interdits. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, d'où ça vient, pourquoi, comment, etc. Enfin, on va parler un petit peu de tout ça. Et toi, Jackie, tu vas nous parler de quoi ?
Eh ben moi, je vais essayer de faire un petit peu un bilan de cette saison de jardinage, hein, précisément.
Oui.
Donc, par rapport aux récoltes, par rapport au temps qu'il a fait, etc. On va essayer d'expliquer deux, trois choses comme ça. Et puis, je voulais un peu plus particulièrement vous parler aussi des graines, parce que c'est l'époque où on va ramasser les graines, le comment, le pourquoi. Et voilà, on va essayer de développer un petit peu ça.
Très important. Il va vous falloir vous mettre un petit peu au travail pour récolter les graines et finir par avoir des récoltes complètement adaptées à votre territoire.
Voilà, ça on en discutera. Effectivement, comment faire évoluer les graines qu'on a pu acheter. On peut les acheter une fois. Moi, ce que je préconise, c'est après d'essayer de les récolter parce qu'on verra que les végétaux évoluent.
Oui, et s'adapte. Super. Bon, alors on parle un petit peu des cépages interdits. Tu connais toi, Jackie ?
Eh bien oui, je connais ça puisque avec Verger de Lozère, on est souvent sur les Cévennes, hein, puisque c'est dans les Cévennes que ça reste, que c'est resté. Il y en avait un peu partout en France.
Ça a été conservé.
Ouais. Eh bien oui, comme on dit dans les Cévennes, les choses rentrent mais ne sortent plus.
Gare à vous.
Alors, je vais te laisser développer un petit peu et puis je me permettrai d'intervenir au fur et à mesure de mes pensées.
Très bien. Juste pour info, mes informations viennent de la revue Fruits oubliés que tu m'as gentiment prêté, Jackie, puisque tu as toutes les séries. Et celui-là date de novembre 2000 et il coûtait 25 francs à l'époque. C'est rigolo ?
Eh oui.
Nostalgie. Alors, les cépages interdits, c'est quoi cette histoire ? Donc, grosso modo, aujourd'hui, en France, la vigne, elle se greffe.
Oui.
T'es d'accord, Jackie ?
Oui, jusque-là.
Jusque-là, on ne connaît rien d'autre.
Voilà.
A priori.
On ne connaît plus rien d'autre.
On ne connaît plus rien d'autre, sauf dans les Cévennes. Sauf dans les Cévennes où on a réussi à conserver ces fameuses variétés. Donc, en fait, c'est une loi de 1934 qui est venue frapper d'interdiction ces fameux cépages. D'après le texte officiel, cette loi avait pour but d'assainir le marché des vins. Et en fait, elle a introduit de manière légale la notion de cépage interdit en viticulture en France, tout simplement. Alors pourquoi avoir promulgué cette loi? Donc il y a eu tout un tas de débats dont on parlera rapidement. Mais grosso modo, c'était pour sauver de la ruine la masse des vignerons. Effectivement, le vignoble est en pleine expansion à ce moment-là et la surproduction en France et en Algérie est préoccupante. Donc en fait, il s'agit bien d'une raison économique au départ. On aura souvent entendu des choses comme « c'est des raisins qui rendent fous »,« c'est du vin qui rend fou », etc., etc. Continuons notre exploration.
Oui, il y a toujours les raisons officielles et les raisons officieuses.
Voilà. Donc en fait, il s'agissait réellement de mesures de prévention destinées à lutter contre la surproduction qui pouvait causer la fin des vignobles français. On est d'accord.
Mm-hmm.
T'es pas d'accord? Continuons. Continuons. À savoir qu'au moment de la promulgation de cette loi, on a trois députés de l'Ardèche, messieurs Froment, Boissin et Léon Salles, qui étaient très présents sur les discussions et qui ont vraiment essayé de défendre, qui ont défendu avec force, on va dire, les petits viticulteurs de l'Ardèche, parce que ce sont bien les petits viticulteurs qui ont été atteints. On était en 1934, hein, ok, pas en 2020. Oui. Donc, c'était bien les petits viticulteurs de l'Ardèche qui étaient atteints dans leurs moyens d'existence. Donc, il a tenté notamment de faire passer un amendement, Monsieur Froment, ce député, pour demander à ce que les cépages ne soient pas interdits et qu'on mesure effectivement leur qualité, mais ça n'a jamais été retenu. Et grosso modo, c'est la totalité de la récolte de nos petits producteurs de cépages condamnés qui est touchée. Alors en fait, les petits producteurs ont été touchés, alors que finalement, les grandes régions responsables de la surproduction, c'est une très faible partie de leur récolte qui était atteinte par les mesures préconisées par cette loi. Et donc le député Jaubert parlera à ce moment-là d'atteinte à la liberté individuelle des petits vignerons.
Et oui, toujours à défendre les petits vignerons.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ils ont quand même, pour faire passer cette loi, on a le sénateur Rouard qui était rapporteur de la commission de l'agriculture. Quand il va présenter la loi, il va parler de cépages primitivement introduits d'Amérique depuis de longues années et qui ont des goûts détestables.
Et oui, comme quoi, il y a deux choses entre la gastronomie et la politique. Ça ne fait pas toujours bon ménage, on pourrait dire.
On peut dire qu'il n'est pas bon le raisin, hein, c'est comme le chien quand on veut s'en débarrasser.
Voilà. On va prétendre qu'il a la rage. Donc là, effectivement, hein, ils ont un goût très particulier. Quand on voit par exemple le Clinton, hein, qu'on appelle maintenant, bon, il faut évidemment, c'est un cépage américain, donc ce serait.
Clinton.
On devrait dire Clinton.
Yes, please.
Mais le Clinton ou l'Isabelle d'Amérique dont tu parlais tout à l'heure,
oui. Effectivement,
ont ce côté un petit peu bonbon. Anglais, etc. On peut toujours décider quand les choses ont du goût de dire où c'est bon, où c'est pas bon. Moi, j'aime bien
ou j'aime pas. On est d'accord.
Mais voilà, en politique, c'est pas comme ça que ça marche.
Donc, malgré tout, toute la bonne volonté de ces députés de l'Ardèche qui vraiment ont œuvré à essayer de sauver ces variétés, ça n'a pas été possible. Et c'est dans ces conditions que la loi qui devait assainir le marché des vins a été adoptée définitivement. Donc, le 24 janvier 1935, le journal officiel a publié la liste des cépages interdits. Donc, des noms. Alors, article 1er. Il est interdit d'offrir en vente et de vendre sur le marché intérieur, ainsi que d'acheter, de transporter ou de planter les cépages énumérés ci-après, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données. Donc, les cépages concernés, le Noah, l'Othello, l'Isabelle, le Jacquet, le Clinton et l'Herbremont. Le couperet est tombé. Alors, un petit bémol, hein, puisque ces cépages au goût détestable, soi-disant, qui ont été injustement traités, il faut savoir qu'ils auront pris leur revanche au moment de la guerre de 1939-45, lorsque la pénurie de vin s'est faite sentir.
Et oui, bien sûr.
Toujours là, pareil.
On était bien contents de les trouver.
Alors, j'ai une petite anecdote quand même. Ça, c'est rigolo parce que justement, pour enrayer cette surproduction, on a un député, le député Chouffet, et il a proposé que la ration de vin par soldat passe de 1 demi-litre à 1 litre. Et il s'est justifié en disant « Je ne pense pas, a-t-il dit, qu'il puisse se trouver quelqu'un ici pour affirmer qu'un litre de vin par jour et par homme soit une ration trop élevée. »
Oui, il faut bien dire aussi que dans ces temps-là, le vin rouge comme ça titrait beaucoup plus 9,5, 10, 10,5, alors que maintenant on est autour de 13 voire plus dans les régions du sud. Donc il faut vraiment moduler un petit peu ça. Le vin était beaucoup moins alcoolisé que maintenant.
Effectivement, on est plus à 14 degrés maintenant, 13, 14 degrés. Il fait chaud. Chaud, chaud, chaud.
Et ça ne s'arrange pas.
Bon, ben voilà l'histoire légale de ces petits cépages interdits. Donc, voilà, non, ils ne nous rendent pas fous.
Ils ont été interdits dans toute la France, mais voilà. Les Cévennes, évidemment, les ont gardés.
Les Cévennes les ont gardés. Mais la particularité de ces cépages, d'un point de vue technique, hein, Jackie, quel est le gros... Moi, le gros intérêt que je trouve à ces cépages, c'est qu'ils peuvent être bouturés.
Voilà. Tout à fait. On n'est pas obligé de les greffer, hein. Donc on peut tout à fait bouturer. Moi, j'en ai à la maison aussi, comme ça, très simplement. À l'automne, on prend des rameaux, on va en faire des boutures. Moi, je préconise toujours là mon côté jardinier, hein, plutôt au pied d'un mur exposé nord. L'intérêt d'avoir des boutures au nord, contrairement à ce que les gens peuvent penser, hein, on a toujours plutôt se dire oh, mais je vais bien les exposer au soleil, machin, etc. Savoir qu'une bouture, dans un premier temps, ce qu'on va chercher, c'est qu'elle fasse des racines et non pas qu'elle fasse une belle plante. Donc, elle va être, en étant au nord, aller à un endroit où les chocs thermiques sont beaucoup moins importants, c'est-à-dire qu'il y aura une moindre différence de température entre le plus chaud et le plus froid de la journée. Donc, ça sera plus tempéré et nos boutures vont marcher comme ça. Moi, je préconise donc de les faire à l'automne. Et l'automne suivant, on les arrache avec précaution pour bien garder toutes les racines. Et là, on pourra les planter définitivement à l'endroit qu'on veut, c'est-à-dire un endroit qui soit bien exposé, effectivement, plutôt sud ici, pour pouvoir bien faire mûrir le raisin.
On laisse la bouture tout l'hiver comme ça, tranquillement se préparer ses racines à l'ombre, côté nord. Et ensuite, quand elle aura bien fortifié au niveau des racines, on pourra la planter définitivement là où on souhaite la mettre.
Il lui faut un an hein, pour ça, hein, d'un automne à l'autre automne.
Ah, quand même.
Eh bien oui, à l'autre automne, quand les feuilles seront tombées, hein, c'est bien toujours à l'automne qu'on va transplanter justement ce genre de plantes-là, hein, toutes ces plantes ligneuses. Donc, comme les arbres, hein, c'est des plantes qui contiennent du bois. Et la vigne, elle est bien ligneuse quand on voit les cèpes. Hein. Donc ça, on attend que les feuilles soient tombées à l'automne et on va transférer à l'endroit définitif.
Bon, ma petite production n'est pas prête à démarrer. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Je tiens quand même à préciser que nous sommes dans le strict respect de la loi, Jackie, puisqu'il ne s'agit pas de vendre ou acheter, mais bien de donner et d'échanger.
Voilà. Mais si on reprend le texte de loi, je me demande justement si c'était pas le don n'était pas inclus. Mais ceci dit, il y a toute une procédure en ce moment hein, qui est en train de se faire auprès des ministères, etc., pour réhabiliter ces cépages interdits. Et donc, il y a des gens dans les Cévennes qui produisent même du vin à partir de ces cépages interdits. On peut faire du jus de fruits. Alors moi, le jus de fruits pour les enfants, comme ça, avec ce goût de fraise tagada, je ne vous dis pas comment ils
aiment. Non, j'ai dit fraise des bois, mais comment tu es influencé par la publicité, Jackie? Je suis choquée.
Voilà. Eh ben, ce n'est qu'un début.
Donc ça plaît, oui, c'est des raisins avec des goûts différents. Voilà. Et bon, ben voilà, on travaille la question avec Jackie, on travaille à multiplier tout ça, hein.
Voilà. Et donc, on va boire du jus de raisin de là-bas pour ne pas acheter des fraises tagada pour faire plaisir à Nathalie.
Merci, Jackie. Bon, voilà, on vous racontera ces histoires de cépages au fur et à mesure, puisque bien sûr, on lance un chantier, évidemment, comme d'hab. Jackie, j'ai croisé des jardiniers, des jardiniers amateurs ces derniers temps, qui me disent, oh, il y en a un qui m'a dit, oh, mais moi, j'aimerais bien savoir comment on fait pour les graines, tout ça, faire mes semis tout seul, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et comment je m'y prends, avec qui, pourquoi, comment et à quelle époque.
Eh bien, je vais essayer de répondre à cet éventail de questions. Ben, d'abord, je vais revenir sur le... Parce que pour avoir des graines, il faut déjà avoir des plantes, hein, donc des plantes qui est fleurie, etc. Donc, en fait, mon idée, c'était de revenir un petit peu sur cette saison qui a été quand même assez extraordinaire par les chaleurs qu'on a pu avoir, par les quantités d'eau qui pour le moins, ont été inégales, surtout dans le temps, puisqu'en fait, on se rend compte, quand on regarde un petit peu la pluviométrie, ben, que cette année encore, comme l'année dernière, on va être une année très humide, alors qu'en fait, on a eu très sec et très chaud l'été. Simplement, il a beaucoup plu ce printemps. Et quand on regarde bien, on a eu de l'eau quasiment tous les mois. Alors, pas en assez grande quantité par rapport à la température, au vent, etc.
Oui.
Mais on va se retrouver encore une fois avec une année pluvieuse, alors qu'on aura souffert de la sécheresse. Tout ça pour dire que ben, les conditions n'ont pas été simples pour les jardiniers, puisqu'il a fallu bien pailler ces végétaux. Hein. Quelques-uns ont arrosé parce qu'ils n'avaient pas assez paillé. Donc, je reviendrai toujours sur ce truc. On est dans une évolution au niveau climatique qui fait qu'on a vraiment intérêt à pailler au maximum son jardin.
Hein. Et au maximum, c'est 20 cm minimum de paillage, on est d'accord,
Jacques. Quand on met de la paille, oui, il faut que ce soit une vingtaine de centimètres.
Voilà.
Quand on met du BRF, par exemple, c'est une petite dizaine de centimètres. On peut aussi, alors ça se fait de plus en plus, pailler aussi avec les épluchures de légumes. Ça va se composter tout seul, en fait. Hein. On peut très bien avoir ces épluchures comme ça. Moi, j'aime bien les recouvrir, hein, parce que comme ça, ça va mieux fermenter pour se décomposer. Recouvrir encore avec de la paille ou avec de la tonte de gazon qu'on aura préalablement un peu séchée.
Mais on risque pas de faire venir des insectes nuisibles comme ça, parce que je me rappelle que pour les pommes, par exemple, on avait eu une question.
Oui.
Une personne qui avait des soucis de vers dans ses pommes, et tu lui avais bien expliqué de ne surtout pas laisser les vieilles pommes au pied de l'arbre parce que ça faisait revenir les vers pour l'année suivante. Est-ce qu'on n'aura pas le même problème là ?
Non, parce qu'en fait, ça, j'avais expliqué ça pour des arbres, pour les pommiers.
Oui.
Et en fait, là, on est dans le jardin. Hein. Donc,
oui.
les seuls insectes qui vont venir, c'est les mêmes qui seront sur le compost dans un coin du jardin.
C'est vrai.
Donc là, il n'y aura pas de grosses difficultés. À noter, puisqu'on est dans les insectes, cette année, énormément de guêpes, de frelons, hein, que ce soit les frelons européens ou les frelons asiatiques.
Ouais.
Partout, ouais. Moi je suis allé dans l'Anjou ou autre, partout on se plaint de ça. Et beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi ? Alors, encore une fois, dès qu'il y a un peu trop, aux yeux de chacun, un peu trop de ce genre d'insectes, c'est un dérèglement, etc. Alors, c'est une conséquence. Une conséquence du dérèglement, c'est-à-dire que l'hiver dernier a été relativement doux, hein, on peut dire en Lozère, puisqu'on n'a pas eu de gelée très forte. Ce qui veut dire que les reines de ces colonies de guêpes ou de frelons, en fait, ont très bien survécu. Le printemps a été quand même assez doux, justement, par moi, je me souviens, on avait parlé des seins de glace. Ben, cette année, il n'y a rien eu aux seins de glace. Ce qui veut dire que le printemps a été précoce. Ce qui veut dire que les reines de ces colonies ont pu commencer à produire des œufs très tôt dans la saison, que l'élevage des ouvrières s'est bien fait. Et que, en fait, eh ben, tout ça, après, c'est exponentiel. Plus tôt ça démarre la colonie, plus la reine va avoir d'ouvrières, plus elle va pondre. Et en fait, effectivement, on se retrouve cet été, surtout là, depuis le début du mois d'août, avec des quantités énormes de ces insectes, qui donc ne se contentent pas d'être dans la nature parmi les arbres, mais viennent aussi autour des maisons, quand on mange dehors, etc., attirés par tout ce qu'ils peuvent manger, hein, tout simplement. Donc, c'est pas quelque chose de très anormal, c'est consécutif, en fait, à ce réchauffement climatique aussi. Il suffirait que l'hiver prochain, il gèle très fort ou qu'on ait, par exemple, à nouveau des seins de glace au mois de mai prochain pour qu'on ait moins de ces insectes. Donc, pas de panique, surtout par rapport à ça. Petite anecdote aussi que j'ai remarqué quand même, c'est que on a la présence des deux frelons, hein, frelon asiatique, frelon européen, souvent aux mêmes endroits. Et à chaque fois, j'ai pu remarquer que ce soit sur de la vigne ou que ce soit sur des pruniers, le frelon européen a tendance à chasser le frelon asiatique simplement en volant très fort à côté. Deux ou trois fois comme ça, je me suis rendu compte que quand il y a la présence des deux, c'est le frelon asiatique qui s'en va.
Donc, ah, bonne nouvelle.
Peut-être que ça peut être une bonne nouvelle aussi dans le comportement de ces animaux qui ne sont pas natifs d'ici, à suivre en tout cas.
Oui, vas-y le frelon européen, voilà. Bravo.
Donc ça, c'était un peu pour les conditions particulières. Donc les récoltes, eh bien, quand on a bien amendé, quand on a bien arrosé ou bien paillé, les récoltes ont été assez belles, hein, que ce soit au niveau des tomates, des cucurbitacées, etc., les haricots, les carottes, enfin pour moi... Tout a très bien donné parce que la chaleur était là. Donc, où on a conservé l'humidité par paillage, où on en a apporté, ça doit être omniprésent dans la tête du jardinier maintenant. Comment je vais faire pour anticiper la chaleur de l'été,
puisque... C'est ça, se poser la question de l'eau avant.
Voilà.
Ouais, donc c'est ça, très important.
Ça, c'est important. Ben, ce qui veut donc dire aussi que on va avoir à l'intérieur de nos fruits, on va avoir
la courgette et la tomate étant des fruits, hein.
Voilà, on va avoir des graines.
Hein,
donc ces graines là pour les, en tout cas pour les cucurbitacées, sont des graines qu'on appelle humides, hein, c'est-à-dire que
oui.
Il va falloir aller les chercher dans les fruits. Attention pour tout ce qui est cucurbitacées, ça se croise très facilement, hein,
ouais.
Puisque le temps de vie du pollen est supérieur à 5 mètres de déplacement d'un insecte. Je récolte mes graines de courge si j'ai bien fait moi-même la pollinisation. Sinon, tant pis, je les achète.
Ou bien si j'ai par exemple mis uniquement une seule variété de courge dans mon jardin, là, je peux récolter les graines sans problème. À condition que dans le jardin d'à côté, juste derrière le petit muret, il n'y ait pas un autre type de courge, parce que là, par contre, ça fera la même chose. C'est le seul moyen de conserver ces graines de courge. Sinon, ça va s'hybrider.
Voilà, absolument. Et quand ça s'hybride, eh bien, la plante va chercher à reproduire en fait ses caractères de rusticité, mais pas du tout obligatoirement les caractères de qualité de fruits.
Hein, et puisque... vous aurez des coloquintes à la place des courgettes.
Voilà,
on
aura des choses qui peuvent être dures et filandreuses, même si ça a l'aspect d'une courgette ou d'un potiron.
Oui.
L'aspect extérieur et puis l'intérieur peut être différent. Voilà. Donc, par contre, alors pour les graines, pour les autres graines comme les tomates, par exemple, eh bien, très facile, hein, on coupe une tomate en deux, en laissant les deux pôles aux extrémités, hein, c'est-à-dire la queue ou le sommet de la, voilà, on coupe donc horizontalement la tomate comme ça. On va chercher à l'intérieur les graines, on met ça dans un verre. C'est assez facile. Moi, je rajoute un tout petit peu d'eau. Et puis, à une température de cuisine autour d'une vingtaine de degrés, et bien, dans la semaine, on a deux phénomènes qui vont se passer. Un premier phénomène d'acidification qui va faire qu'en fait, tout ce qui est pulpe au niveau de la tomate va se désagréger en laissant que les graines. Et puis ensuite, au bout de 4-5 jours, on va voir un petit film blanc se développer par-dessus, c'est un champignon. Donc, ça veut dire que là, le milieu n'est plus acide. On laisse un petit peu le champignon se développer et on rince ça. On passe dans une petite passette à thé et on va mettre les graines sur du sopalin, attendre qu'il soit bien sèche. Et ensuite, on va mettre ça dans des petits sachets en papier avec le nom de la variété et surtout l'année en dessous. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de garder ces graines, hein? Les graines sèches, j'y reviens pas trop, parce que la graine sèche, hein, que ce soit des fleurs, par exemple, ou autre, vous savez comment on fait, hein, une fois que la hampe florale est séchée, on met ça au-dessus d'un papier journal, hein, pour nos salades, on peut faire pareil aussi. Et puis, on va donc, en agitant, libérer les graines, les récupérer, et là aussi, elles seront mises dans un petit sac en papier. Moi, j'aime bien ça, parce que si on a laissé une certaine humidité dedans, le papier va faire que ça va finir de se sécher et non pas moisir. Donc, ce que je voulais vous dire quand même, on en a touché deux mots tout à l'heure, c'est que, en fait, par rapport aux conditions de culture, les plantes peuvent évoluer.
Oui,
Donc, elles vont s'adapter à leur sol, elles vont s'adapter à leur microclimat hein, de notre propre jardin. Mmh. Et tout ça, ben, elles vont l'avoir dans leur gène. Et donc, on a des chances que ça puisse coexister dans la graine pour que, en fait, avoir donc des variétés qui vont évoluer. Vous avez dû entendre parler de ça. Il y avait un monsieur Pascal Pout dans le sud de la France. C'était,
oui, les fameuses tomates sans eau.
Les tomates sans eau.
Ouais.
En fait, c'était un monsieur qui avait tout simplement... alors, il habite à Lodève, voilà, ça me revient.
Oui.
Il avait cultivé des tomates sans eau dans un terrain très aride comme ça. Et avec une dizaine de générations de tomates, il était arrivé à avoir, en gardant les graines et en les ressemant sur une dizaine de générations, à avoir des tomates qui pouvaient résister au sec sans trop de problèmes. Vous pouvez vous amuser à faire des choses comme ça. Mais ça peut être les côtes de blettes, ça peut être...
Il suffit de laisser monter en graines. Hein, voilà. Une salade, on la laisse monter en graines, on récupère les graines. Les blettes, c'est pareil.
Oui.
Carottes.
Alors, à savoir que, voilà, blettes ou carottes ou même choux, ça peut se faire aussi. Mm. À savoir que certaines espèces comme ça, il va falloir 2 ans hein, pour que ça monte en graines.
Ah, quand même.
Eh bien oui, parce que bah, les carottes, par exemple, si je laisse des carottes même tout l'hiver, là,
oui, elles ne vont pas monter en graines.
Ça va être la deuxième année hein, ouais. qui vont le faire. Donc, il faut être patient, il faut avoir un grand jardin, parce qu'il faut avoir de la place pour faire ça. Mais voilà, c'est un processus qui peut être intéressant, voilà, pour les jardiniers.
Il me vient une question, Jackie.
Oui.
Et nos fameux plants F1, si les gens ils ont acheté que des plants F1 pour mettre dans leur jardin, comment ils font?
Eh bien alors, ils...
Rappelle ce que c'est un plant F1.
Voilà, alors un plant...
C'est pas de la formule, hein.
Voilà. Le F1, ça veut dire que c'est une plante hybride, donc qui est de première génération. Mm. Hein, donc croisement direct entre des fleurs mâles et des fleurs femelles de 2 variétés différentes. Ça va nous produire un hybride F1. Hein. Mmh. Donc, alors ça se passe par exemple en agriculture avec le maïs. Hein. J'ai un maïs alpha, par exemple, et un maïs bêta. Je vais pouvoir faire un hybride entre les deux en gardant les fleurs mâles de l'alpha, par exemple, en les supprimant sur mes plants bêta. Et donc, obligatoirement, les femelles bêta vont recevoir du pollen alpha. Et ça va me donner une graine qui va être hybride entre les deux et qui va se reproduire, d'accord ? Qui va germer.
Ouais.
On va faire un plant. Par contre, ses propres graines issues d'un hybride F1 ne seront pas...
Sont stériles.
Ouais. Sont stériles à 98% parce que bon, dans la nature, il y a toujours des choses étonnantes comme ça. Mais voilà, un hybride F1, normalement, est stérile. Comme beaucoup d'hybrides, hein, dans la nature, une mule, par exemple, donnera jamais de petits.
C'est la même chose.
C'est comparable.
Ouais.
Ça peut être on est dans le monde du vivant, que ce soit. Non,
je pars pas dans des délires, absolument pas.
Voilà. Donc mais ça peut être simplement fait pour comprendre comme ça.
Mais d'où tout l'intérêt en fait de ces fameuses bourses aux graines et d'échanges entre jardiniers, parce que vraiment voilà si vous achetez un plant F1 bon de tomates, allez, ben vous aurez des tomates, c'est sûr, hein, c'est à peu près garanti, à condition que vous soigniez bien votre plant. Mais par contre, derrière, vous n'en ferez rien, ce sera stérile.
Voilà.
Donc vous retournerez acheter un plant l'année d'après.
Eh ben, c'est le monde du commerce, hein. C'est là-dedans qu'on vit. Alors, justement, en jardin, ben on a quelques moyens comme ça, effectivement, par les bourses, d'échange, où on peut faire évoluer les choses et puis être en espèce d'autarcie comme ça. Moi, j'aime bien ce procédé d'échanger, voire de donner simplement. Hein. On sait que si on donne un jour, eh ben on recevra peut-être même si c'est un autre jour.
Mais toujours.
Voilà, c'est dans ce sens-là que ça devrait marcher.
Et tiens, ça me fait penser à la petite lecture que je vous ferai en fin d'émission, ce que tu viens de dire, Jackie. C'était beau, merci.
Voilà.
qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, amis jardiniers, Surtout, là, trouvez le moyen de récolter vos graines. La tomate, c'est facile, comme il a dit Jackie. On sort juste quelques graines de notre
fruit.
Tomate, notre fruit coupé en deux, pardon. Et on les laisse tremper dans l'eau jusqu'à ce que ça se désagrège un peu et qu'on récolte, qu'on arrive à séparer un petit peu les graines. Ensuite, on les fait sécher sur, par exemple, du papier essuie-tout. Idem pour les graines de courge, hein, il va falloir laisser un temps, les laisser bien sécher. Ensuite, vous les emballez bien dans des petits sachets papier où vous allez noter la variété et l'année de récolte de la graine.
Et voilà.
Et ça, pour ne pas... les années suivantes, vous saurez de quand ça date, comme ça.
Savoir aussi, il y a une autre raison pour laquelle marquer l'année, c'est que les graines ont un temps de qualité de germination qui peut être différent les unes des autres. Pour prendre juste deux exemples, le pané, ça va être un an. On ne pourra pas semer des graines de pané en cherchant une bonne réussite après un an de conservation. Et alors que les tomates, par exemple, c'est 5 ans. Voilà.
Ok, bon ben merci Jackie pour tous ces précieux conseils. Maintenant, amis jardiniers, amis jardinières, à vous de jouer. On va faire une première pause musicale avec Idir. Idir, ce grand monsieur qui vient de nous quitter. Et un grand monsieur qui a contribué fortement à populariser la musique kabyle. Et donc, on va écouter Avava Inouva tout de suite.
Thank you.
revoici de retour avec Jackie pour Cultivons notre jardin. Donc, en première partie d'émission, on a vu un petit peu tout ce que vous pouviez faire là aujourd'hui au jardin pour préparer pour l'an prochain, récolter vos graines, tout ça, tout ça. Un petit bilan de la saison d'été. Et puis, ben, maintenant, Jackie, je crois que nous avons quelques questions d'auditeurs. Et puis, alors, franchement, parce que là, la pause ayant joué, on a plein de questions d'auditeurs.
Eh ben c'est plutôt une bonne chose, parce que la question d'un auditeur sert toujours
à
plusieurs autres, je pense. Et puis c'est un gentil témoignage aussi dans le fait qu'on est un peu écouté, donc ça fait vraiment plaisir.
Ouais. Alors on va commencer par Gisèle Duchastel.
Oui.
Gisèle Duchastel, elle a des soucis avec ses fruitiers. Alors. Ah. Elle ne comprend pas pourquoi les insectes mangent ses pommes. Elles n'ont pas le temps de grossir. Elles tombent avant de mûrir, toutes vertes. Il s'agit de reine des rainettes comme variété. Et elle me dit qu'elle ne sait pas qu'est-ce que c'est, qu'elle a vu des perce-oreilles, qu'elle pense que c'est les perce-oreilles qui mangent ses pommes, ou bien c'est peut-être une mouche. Enfin, en tout cas, ce n'est pas elle qui les mange, ses pommes.
Alors, bon, on va essayer d'expliquer à Gisèle et aux autres. Plusieurs choses. D'abord, les insectes, effectivement, sont souvent montrés du doigt comme ça. Alors, soyons clairs déjà avec les perce-oreilles. Les perce-oreilles, ils peuvent effectivement manger des fruits. Hein. Ça peut être frugivore, mais c'est aussi insectivore. Mmh. Et,
ils ne sont pas là pour rien.
Les perce-oreilles, ils ne sont pas là pour rien. Ils nous débarrassent de beaucoup de larves, de petits insectes. Et en particulier aussi bien de pucerons, par exemple, hein, qui sont des fois une plaie. Donc, disons que c'est pas les perce-oreilles qui l'empêcheront de manger des pommes, parce que si occasionnellement ils peuvent manger des fruits, c'est pas dans des proportions énormes. Toujours se dire, hein, en jardinage, moi j'ai l'habitude de dire aussi, regardons déjà ce qu'on perd, nous. Ce qu'on perd, par exemple, parce qu'on a fait des choux et puis on n'a pas eu le temps de manger tous les choux, les poireaux, ben on n'a pas eu le temps de manger tous les poireaux ou autre.
Donnez-les à vos voisins.
Parce que voilà, mais déjà se dire, mais attends, qu'est-ce que ça représente ce que les insectes ou autres petites bestioles vont manger par rapport à ma production. Hein, souvent c'est infinitésimal et pourtant ça prend une grande importance dans la tête. Donc relativisons.
C'est important de partager.
Voilà. Effectivement, comme tu le dis, de donner aux voisins, etc. Mais c'était moi, le sens de mon truc, c'était un petit peu de dire est-ce qu'on est sûr de tout consommer déjà et nous, on n'est jamais responsable. Les insectes sont responsables de tout. Alors ça me voilà.
Non, c'est mais elle n'a pas mangé des pommes, Gisèle. Voilà. Du tout, les insectes ont tout mangé, voilà. Apparemment. Donc elle peut râler.
Donc, les perce-oreilles, mettons-les un petit peu de côté. Ouais. Par contre, je comprends effectivement qu'elle râle après les vers dans les pommes. Donc, les vers qui sont dans ces pommes sont des larves de Carpocaps. Le Carpocaps, c'est un papillon, un papillon de nuit, hein, qui est assez insignifiant, un peu dans les gris beige. Voilà. Mais il est embêtant parce que il va pondre dans les pommes qui sont en formation, poser ses œufs et en fait une larve va naître et puis va aller jusqu'au cœur de la pomme en fait pour manger. Et effectivement la pomme a une réaction ensuite de faire tomber son fruit pour essayer de de pas nourrir un fruit pour rien, simplement. Hein. Donc, oui. Nourrir avec la sève, hein, je veux dire. Ouais, c'est l'arbre qui va couper le courant de sève qu'il y a au niveau du pétiole. Alors, comment faire? Eh ben, les carpocaps, c'est un peu une cochonnerie. Donc, comment ça se passe naturellement? Ces larves vont normalement, pour les pommes qui ne seront pas tombées, redescendre le long des branches de l'arbre. Pour aller s'enterrer pour l'hiver, pour donc faire une chrysalide et puis devenir papillon. Un moyen, c'est de mettre du carton enroulé autour du tronc.
en bas du tronc.
Même à un mètre du sol, hein, puisque de toute façon, elles vont passer par là, normalement. En tout cas, une grosse partie de ces larves va passer par là. Donc, essayons de comprendre un petit peu. C'est toujours difficile sans croquis comme ça, de se dire, je prends du carton ondulé. Les ondulations, en fait, vont être verticales et à l'intérieur du carton, donc entre le tronc et le carton. Mm-hmm. Hein, parce que donc, ça va faire des espèces de petits tubes dans lesquels les larves vont descendre pour aller trouver le sol.
Elles descendent à quel moment, Jacques?
Elles descendent en fin d'été, là, au moment du mûrissement des fruits, où pour les fruits qui vont rester dessus, elles vont quitter et puis descendre. L'automne aussi, puisqu'en fait, on a des pommes, là, en particulier les reines des rainettes, c'est des pommes hâtives, mais on peut avoir des pommes qui sont plus tardives. Donc, on va laisser ce carton-là comme ça, parce que l'insecte, en descendant dans le carton, va trouver que finalement, c'est un endroit qui n'est pas si mal. Et beaucoup vont faire la chrysalide, justement, dans ce carton. Si je retire ça au mois de janvier-février, mes cartons, et je les brûle, normalement, dedans, je vais avoir des chrysalides comme ça. Ça va être un des moyens pour déjà lutter. Alors, je dis pas que ça marchera en un an, hein. Il faut du temps, mais il faut lutter comme ça. Ensuite, on a au pied des arbres, donc il y en a quand même sur toutes les pommes tombées. Bah, je les ramasse au maximum de façon à ce que les larves viennent pas faire leur cocon aussi, hein, mm-hmm. et donc développer des adultes par la suite qui vont encore faire plus de ravages. Y a aussi un moyen qui est, quand on a des poules, de parquer un petit peu les poules pendant un temps, parce qu'elles ont une propension à trouver justement ces chrysalides dans le sol et à en manger un maximum. Alors, attention, je dis toujours, laissez vos poules une quinzaine de jours comme ça dessous, hein, faire un petit clos comme ça. Pas beaucoup plus, parce que elles vont pas se contenter de ces ravageurs-là. Elles pourront aussi manger des insectes qui peuvent être utiles à la vie du sol.
Bon, du carton, des poules, et on est sauvé pour les pommes.
Et puis de la patience un petit peu, parce que ça ne se fera pas en un an. Mais c'est le moyen, en tout cas, d'y arriver.
Un moyen naturel, en tout cas. Voilà. Ça, c'est intéressant. Gisèle Duchastel, elle a aussi des soucis avec ses cerisiers. Donc, ses cerisiers, ils sont pleins de fleurs, puis les feuilles se ratatinent, se sèchent et les fruits sont immangeables, sont complètement abîmés. Qu'est-ce qui se passe avec les cerisiers de Gisèle?
Alors, plusieurs choses. Bon, que l'arbre fleurisse bien, c'est une bonne chose. Ensuite, le dessèchement des feuilles, surtout au Chastel, un peu en altitude, on a une bactérie qui attaque beaucoup les cerisiers depuis quelques années. Et ça, il n'y a pas grand-chose, malheureusement, à y faire. Mais moi, j'ai essayé des choses en greffant sur des porte-greffes différents. Mais on se rend compte qu'à la montagne, c'est très difficile comme ça. On a de plus en plus de cerisiers, effectivement, qui se sèchent. Alors ensuite, les fruits qui sont pas bons, c'est souvent parce qu'il y a une mauvaise pollinisation. Il faut savoir que le cerisier est un arbre qui peut être stérile. Certaines variétés, si elles sont toutes seules, le reverchon tout seul, il va être stérile simplement parce que il ne peut pas être pollinisé par son propre pollen. Donc souvent, il faut deux variétés. Et quand on plante un cerisier, on dit tout le temps, faut planter du burla, le premier qu'on plante, parce que c'est un excellent, il est auto-fertile et pollinisateur. Donc voilà, quand on n'a pas beaucoup de fruits, pas assez de fruits comme ça, hein, c'est vrai pour d'autres arbres, hein, comme certains pruniers, par exemple le prunier Reine Claude Doré, tout seul, il est stérile. Donc
mettre un cerisier burla à côté,
ça pourrait favoriser la pollinisation, donc la formation de fruits. Hein.
D'accord.
Et parce que s'il y a un problème au niveau de la formation des fruits, ils vont pas être bons, hein, non plus. Hein.
Mmh. Le cerisier, il a bien compris, lui, qu'on fait pas grand-chose quand on est tout seul.
Voilà.
Et malin, le cerisier.
Voilà. Ceci dit, on n'a pas la variété. Ce serait intéressant que Gisèle puisse nous le dire. Mais peut-être que, voilà. Peut-être en tout cas que ça donne des pistes. Hein. Mon idée, c'est pas, j'ai pas de médicament hein, spécial pour ça. Mais déjà de savoir, de comprendre un petit peu pourquoi on a tel ou tel problème, ça peut aider à les régler.
Bon, donc a priori sur le cerisier, Gisèle, vous avez un problème de pollinisation et le conseil de Jackie, c'est peut-être pour commencer d'essayer de mettre un cerisier de variété Burla. Ça peut peut-être solutionner le truc.
Voilà.
Mais peut-être il faudra faire d'autres choses aussi.
Et nous tenir au courant en tout cas.
Surtout. Alors ensuite, j'ai une question de Roland de Demande.
Oui.
Alors, Roland de Demande nous demande, j'ai un potager qui a donné des légumes qui n'ont pas grossi. Quelle solution ?
Alors... Ça peut arriver. Pourquoi ? Donc là, a priori, c'est en général. Hein, si j'entends bien la question, c'est les légumes en général.
Les tomates, les courgettes, ça n'a pas grossi.
Et ben pourquoi est-ce que nous on grossit ?
Parce qu'on mange.
Parce qu'on mange. Voilà. Et donc, je pense que c'est un problème d'amendement. Hein. L'amendement, c'est ce qu'on peut apporter à la terre pour l'améliorer. C'est donc l'amendement, c'est du fumier décomposé, c'est du compost. Voilà, ça peut être du sang desséché, ça peut être de la corne torréfiée. Donc, tout un tas d'éléments qui sont en fait de la nourriture pour les plantes. Quand ça grossit pas comme ça dans un jardin, hein, il faut savoir que nos grands-parents et tout, hein, les pratiques se sont un peu perdues, mais tous les ans, ils remettaient du fumier.
Oui.
Donc pour amender le sol, puisqu'en fait ce sont ces particules-là, des bien décomposées, qui vont être absorbées par les végétaux. Et donc en quelque sorte, c'est une nourriture là qui manque. Alors quand on peut pas avoir de fumier, de compost ou autre, donc
bah, je
parlais oui de cornes de sang. Je peux aussi dire il y a un amendement. Alors par contre, effectivement, ça coûte un peu, mais c'est l'or brun. L'or brun, c'est un amendement que j'aime bien préconiser parce que c'est un mélange de plusieurs fumiers plus du varech. Donc varech, c'est les algues hein, de l'océan qui ont été bien décomposées. Alors c'est riche en tout un tas d'oligo-éléments qui vont être favorables au. Alors oui, ça a un prix, c'est en sac. Il a fallu le faire, il a fallu le récolter, il a fallu le mettre en sac, il a fallu le transporter, il a fallu l'amener. Il faut un magasin pour le vendre, donc ça a un certain prix. Mais c'est facile d'utilisation.
Oui.
J'ai un sac, ça sent pas trop mauvais, pas trop longtemps. Ça sent quand même un peu, hein, puisque c'est un amendement. Mais voilà. Ou on paye comme ça, ou on se fait son compost, ou on cherche tout un tas d'amendements comme ça, fumier. Attention avec les fumiers maintenant plus en plus, parce que on traite de plus en plus les bovins, et en particulier, et donc on retrouve, il y a des antibiotiques, il y a tout ça dedans, et donc savoir si on peut avoir un fumier qui est assez sain comme ça, pas trop de médicaments. La prophylaxie est importante maintenant dans les animaux d'élevage. Voilà.
Tous les ans, Jackie ?
Alors, si on peut, tous les ans, oui. Même en cours d'année. Hein, parce qu'il faut aussi comprendre que certains végétaux, comme les oignons, par exemple, n'ont pas beaucoup besoin d'amendements comme ça. Hein, c'est des plantes qui sont assez sobres à ce niveau-là. Par contre, des plantes comme les tomates, les choux, les haricots, ça va leur faire du bien d'avoir effectivement de quoi manger pour vous restituer ça en production, quoi, en fait. Voilà.
Ok. Merci, Jackie, pour toutes ces précieuses réponses. Alors, chers auditeurs, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions, si vous en avez, bien sûr. Alors, pour mémoire... pour nous envoyer vos questions, vous pouvez le faire par mail, par courriel à redac@48fm.org ou bien sur la page Facebook de la radio, c'est facile.
Voilà, il n'y a qu'à et on essaiera de vous répondre.
Faucon.
Alors maintenant, on va peut-être... on avait un... On avait un sujet, donc tu nous as dit en début d'émission que tu avais,
Étais
en cours de lire un livre qui était bien, bien intéressant. Écoute, je t'invite à en parler.
Oui, je tenais à vous en faire part. C'est ma dernière lecture. C'est une amie qui me l'a conseillé. Je l'en remercie, évidemment. Je viens de. Alors, c'était bien le confinement, hein, parce que ça a permis à plein de gens, dont moi, de se remettre à la lecture. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, je suis bien lancée. Je ne m'arrête plus. Alors,
c'est une bonne idée.
Ce que je viens de lire, c'est important de se créer des petites bulles en ce moment. Vous avez noté ? Alors, en ce moment, et là, je viens de lire le petit manuel de résistance contemporaine qui a été écrit par Cyril Dion fin 2019. Donc, plutôt récent, mais juste avant notre crise du corona. Pas inintéressant de le lire dans ce contexte, du coup.
Cyril Dion, donc, ça me dit quelque chose. C'est un cinéaste, hein ?
Oui, il a fait le film Demain. Cyril Dion, il a cofondé le mouvement Colibri avec Pierre Rabhi.
Oui.
Voilà. Et donc, en fait, suite à ce film, Demain, il a continué de se poser des questions. La question principale étant face à l'effondrement écologique qui se produit sous nos yeux.
Vaste programme.
Vaste sujet. Comme donc, il a écrit un petit bouquin très, très bien fait qui est paru chez Actes Sud la fin 2019. Donc, un petit livre incisif et pratique où dans cet ouvrage, Cyril Dion donc, nous propose de nombreuses pistes d'action individuelles, collectives, politiques. Mais plus encore, il nous invite à considérer la place des récits comme moteur principal de l'évolution des sociétés. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a plu dans ce livre. Et donc, il nous enjoint de considérer chacune de nos initiatives comme le ferment d'une nouvelle histoire et de renouer avec notre élan vital.
C'est bien dit, en tout cas.
C'est beau, hein ? Parce qu'à mener une existence où chaque chose que nous faisons depuis notre métier jusqu'aux tâches les plus quotidiennes participe à construire le monde dans lequel nous voulons vivre. Un monde où notre épanouissement personnel ne se fait pas aux dépens des autres et de la nature, mais contribue à leur équilibre. T'y crois un peu, Jackie,
ou bien... j'aime y croire, en tout cas. Je suis content que... je me sens moins seul.
Voilà, il y a Cyril Dion avec nous. Bon, j'ai choisi un petit extrait de ce livre, peut-être pour vous donner envie. Si j'arrive à vous donner envie de lire ce livre, ben ce sera super. Donc, je répète, Cyril Dion, petit manuel de résistance contemporaine. Je vous en lis juste un extrait qui donne un petit peu une idée de ce qu'on de l'état d'esprit. D'accord ? Tu t'endors pas, Jackie, hein ?
Je m'endors pas du tout. Oh, non, je suis tout ouïe.
Allez, c'est parti. Imaginez que l'essentiel des activités humaines ne soit pas dédié à gagner de l'argent, augmenter le profit, doper la croissance, inverser la courbe du chômage, relancer la consommation des ménages, gagner des parts de marché, vendre, acheter, contenir la menace terroriste, préserver nos acquis, rembourser le crédit, se plonger dans des monceaux de divertissement destinés à nous faire oublier le peu de sens que nous trouvons à nos existences et notre peur panique de mourir. Mais à comprendre ce que nous fabriquons sur cette planète et à exprimer nos talents, à faire grandir nos capacités physiques et mentales, à coopérer pour résoudre les immenses problèmes que notre espèce a créés, à devenir meilleurs individuellement et collectivement. Imaginez que nous passions la majeure partie de notre temps à faire ce que nous aimons, à être utiles aux autres, à marcher dans la nature, à vivre des relations passionnantes, à créer. Impossible, n'est-ce pas ? Utopiste. Bisounours. Simpliste. Et pourtant... Tout ce que je viens de décrire existe déjà en germe dans des écoles en France, dans des éco-quartiers aux Pays-Bas, dans des éco-villages en Écosse et dans des Fab Labs aux États-Unis, dans des zones industrielles au Danemark, dans le quotidien de millions d'entrepreneurs, d'artistes, d'enseignants, d'architectes, d'agriculteurs. Ces histoires se racontent à travers leurs réalisations tangibles. Aujourd'hui, nous avons grandement besoin que ce mouvement s'accélère, que ces petits récits se démultiplient et en alimentent de plus grands. Plus inspirant, capable d'entraîner un irrésistible mouvement. Comme je l'évoquais plus tôt, notre temps est compté. Pour faire face aux défis qui nous attendent, nous avons besoin d'aller vite, d'être efficaces, de déplacer des montagnes. Or, on rencontre généralement cette qualité d'engagement chez les êtres humains dans deux cas. Un, lorsque la contrainte est violente et qu'ils sont au pied du mur, une guerre, une catastrophe naturelle ou autre réjouissance qui pourrait tout à fait se produire ou se reproduire. Ou lorsqu'ils sont portés par l'enthousiasme de la passion. Et dans de nombreux cas, ces deux configurations se confondent. Réfléchissez à toutes les personnes qui ont fait une véritable différence dans votre vie ou dans l'histoire de l'humanité. celles qui vous inspirent, que vous admirez, qu'elles soient artistes, ingénieurs, médecins, chercheurs, celles qui ont déclenché de véritables transformations culturelles, sociales, politiques. La majorité d'entre elles ont trouvé un espace pour exprimer leurs dons au service d'un projet qui a du sens pour elles. Aucune d'entre elles ne passait sa journée à se dire « il faut bien travailler pour gagner sa vie ». Donc, allons-y mollo, et ce soir je vais me faire un bon plateau télé en jouant à Candy Crush. Elles étaient ou sont toujours animées d'un feu dévorant, soit pour répondre à un danger, De Gaulle, à une oppression, Gandhi, à de terribles injustices, Martin Luther King, Mère Teresa, soit pour exprimer leur vision, les Beatles, Virginia Woolf, Toro, mais toujours en utilisant leur talent. Imaginez si l'ensemble de l'énergie productive et créative des personnes qui travaillent chaque jour sur la planète n'était pas concentré à faire tourner la machine économique, mais à pratiquer des activités qui leur donnent une irrépressible envie de sauter du lit chaque matin, et que cette énergie soit mise au service de projets à forte utilité écologique et sociale. Il y a fort à parier que le monde changerait rapidement.
Oui, il y a fort à parier.
Il y a fort à parier. Donc c'est intéressant dans ce bouquin, ce qui est très intéressant je trouve, donc c'est cette façon d'aborder les changements basés sur des récits, et c'est effectivement comme ça que ça se passe depuis des dizaines et des centaines d'années dans nos vies, dans nos têtes, dans nos sociétés. Et voilà, donc dans ce petit bouquin, Cyril Dion part d'un constat, malheureusement, hein, l'extinction de masse qui est en cours, etc. Enfin bon, voilà, on a croisé des travaux de chercheurs, de climatologues, etc. Et puis il finit par apporter une vision qui finalement m'a fait du bien de lire ce livre, parce que je me suis dit c'est pas complètement vain tout ça. Il y a moyen de faire des choses quand même encore un petit peu. Donc allons-y, lisez ce livre et essayez d'avancer.
Et ben voilà, des bons conseils.
Yes.
Alors il nous reste une rubrique. La dernière, c'est l'agenda. On va parler de l'agenda des activités, voir un petit peu le programme. Il faut, dans ce contexte, nous excuser un petit peu parce que ça sera pas complet. Ce sera pas complet parce que c'est une émission de rentrée. On a essayé de préparer tout ça, mais certains documents nous manquent.
Et puis tout n'a pas redémarré dans le contexte sanitaire, oui, tout simplement. Donc
tout
c'est
n'a pas redémarré,
simple.
Mais je pensais par exemple à Jardin Nature 48 ou à Verger de Lozère. Je sais que le calendrier est reparti par exemple pour Jardin Nature 48. Je vous invite à aller le voir sur Internet. Là, on l'a pas précisément sous les yeux. La prochaine émission, on va rattraper tout ça.
Oui, on vous donnera toutes les dates des ateliers. Mais effectivement, Jardin Nature 48, vous allez pouvoir trouver toutes les infos sur Internet.
Voilà. Donc,
On sert à quelque chose, là, Jackie, je te le dis, moi.
Allez, toi, t'es plus productive, là. T'as des rendez-vous à nous proposer.
Oui, j'ai trouvé quelques ateliers zéro déchet.
Eh ben, c'est très bien.
Qui sont organisés, toujours pareil, dans le cadre du programme local de prévention des déchets, hein, donc de réduction des déchets.
Oui.
Sur le programme Centre Lozère avec Céline Janvier. Qu'est-ce qu'on a? On a le samedi 19 septembre, deux demi-journées compostage. Le matin de 9h à 11h30 à Barjac. Et l'après-midi de 14h à 16h30, amende à la maison de quartier de Fontanille. Donc là, c'est deux demi-journées. Il s'agit de formation au compostage avec de la théorie et de la pratique.
Mmh.
Samedi 19 septembre. Les gens qui n'y connaissent rien au compostage, il faut y aller.
Oui. Non, mais même les gens qui connaissent un peu, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur le compostage. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut pas mettre? Combien de temps il faut? Est-ce qu'il faut l'arroser? Est-ce qu'il faut l'aérer? Les questions sont nombreuses de toute façon. Donc, d'aller à ce genre de rendez-vous, ça va améliorer obligatoirement la pratique.
Ouais. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans le cadre des ateliers zéro déchet le samedi 3 octobre? Thématique zéro déchet à la maison, donc le matin de 9h à 11h30 à Brenoux à la salle des fêtes et l'après-midi de 14h à 16h30 à Barjac à la salle des fêtes également. Donc là, on vous présentera des astuces zéro déchet, des recettes anti-gaspi, des fabrications maison d'un produit multi-usage et démonstration de fabrication d'un wrap alimentaire.
Encore un bon programme.
Bon programme. Ensuite, le samedi 10 octobre, donc on vous proposera un atelier de cosmétique naturelle, toujours avec le programme local de prévention des déchets. Et là, il s'agit du matin, de 9h à 11h30 à Barjac, salle Saint-Véran. Et on vous proposera de fabriquer un déodorant maison et un liniment naturel. Il y aura également une démonstration de fabrication d'une huile pour le visage. Et aussi, on vous fera part de quelques astuces pour un quotidien zéro déchet dans la salle de bain.
Eh bien, allez-y, messieurs.
En priorité. Voilà, ensuite, on vous redonnera ces ateliers au fur et à mesure, mais vous pouvez déjà d'ores et déjà noter les dates dans vos agendas. Le samedi 17 octobre, donc le programme local de prévention des déchets en association avec l'ALEP vous propose à nouveau une formation au compostage de 9h à 11h30 à Brenoux à la salle des fêtes et de 14h à 16h30 au Chastel Nouvelle. Tiens, ça c'est pour Gisèle, à la salle intergénérationnelle. Tout rime, Jackie.
Ben oui, c'est formidable.
Donc il s'agit d'une formation au compostage avec de la théorie et de la pratique. Donc, pour tous ces ateliers dans le cadre du programme local de prévention des déchets, je vous invite à contacter Céline Janvier au 07 87 61 76 79. Inscription obligatoire.
Voilà, donc il va se passer aussi d'autres choses, bien sûr, à l'agenda. En particulier, on vous en reparlera lors d'une prochaine émission, mais d'ores et déjà, vous pouvez noter que la fête de l'arbre à Saint-Jean-du-Gard, dont on parle tous les ans, pour l'instant, il y a quelques soucis sur cette fête de l'arbre. L'association qui a organisé la fête, qui était les Dimanches Verts, n'est plus la bienvenue apparemment à Saint-Jean-du-Gard. Donc, eux, ils doivent faire une fête de l'arbre à Quissac, qui est 30 kilomètres à peu près au sud de Saint-Jean-du-Gard. Et puis, Saint-Jean-du-Gard doit quand même aussi faire une fête de l'arbre, mais on ne sait pas encore avec qui ni comment. On vous parlera de tout ça par la suite, parce qu'on se tient au courant. C'est quand même une grosse opération, une grosse fête intéressante. On vous en dira plus au fur et à mesure de nos informations.
Voilà, on vous donnera des nouvelles dans l'automne. Pas de souci.
On se quitte en musique ?
Ben oui, alors comme c'est hommage à Idir quand même, hein, toujours.
Et oui.
Et ben là, on va repasser une chanson qu'on avait déjà passée dans l'émission, puisque son titre, Denia, signifie la terre, mais pas la terre au sens de matière, hein, la terre, notre globe, quoi. Et donc là, c'est Manu Chao avec Idir, qui nous chante Denia.
Et à bientôt.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures.
par leur viol dévasté. Je suis l'aide, par leur haine pourchassée. Je suis là par leurs horreurs torturées. Néant, c'est ma blessure. J'ai mal à mes enfants décapités, à l'honneur. بزاف في مازيغي يذول وين يطيجن يفسيل وفرار تفوت فوسط غادي
Des violeurs innocents, ces faux-dits, ces imams instructeurs, prêcheurs d'une haine venue de l'enfer. Aveugles, ils ignorent que souffrir n'est pas pitié, subir n'est pas abdiquer, abdiquer.
Que plus beau et l'Algérie éternelle ne sera que plus fière.